Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonsresources.gouv.fr/collectivité.
Vous écoutez
RMC.
Bon réveil à tous sur RMC, il est 6h.
RMC, Charles Matin.
Toute l'actu, toute l'info le matin, c'est donc sur RMC, c'est en direct, c'est votre journal présenté par Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Charles, bonjour à tous. Pas de hausse d'impôts et une réforme de l'assurance chômage. C'est le plan de Gabriel Attal pour corriger le déficit de la France, plus important que prévu. Le Premier ministre qui annonce une plainte de l'État après la démission dans un lycée à Paris d'un proviseur menacé de mort pour avoir demandé à une élève de retirer son voile. Et puis cette question, le mystère sera-t-il levé ? La justice va reconstituer le jour de la disparition du petit Émile, il y a 9 mois, dans les Alpes de Haute-Provence.
Et puis des candidats à l'emploi recalés à cause de leur coupe de cheveux. La discrimination capillaire va-t-elle être interdite dans la loi ? Les députés examinent aujourd'hui un texte à l'Assemblée et je reçois une influenceuse militante contre cette discrimination juste après votre journal, Quentin. Pendant une demi-heure, hier soir, Gabriel Attal a expliqué comment il comptait s'y prendre pour corriger le tir.
Oui, les comptes publics étant dans le rouge, avec un déficit plus fort que prévu, 5,5% du PIB en 2023. Sébastien Krebs, c'était sur TF1 hier soir. Le Premier ministre a donc détaillé comment il comptait s'y prendre.
Gabriel Attal pense-t-il que la France est au bord de la faillite ? Non, il préfère un terme moins alarmiste.
La situation est sérieuse.
Le déficit dérape, mais pas question de dévier de l'objectif du quinquennat.
Oui, nous gardons l'objectif de passer sous les 3% de déficit en 2027. Moi, le sujet, c'est de désendetter la France. Parce qu'un pays qui est surendetté, ça n'est pas un pays libre.
Il faut donc trouver des recettes, mais sans augmentation d'impôts, redit Gabriel Attal, qui préfère tout miser sur le travail.
À chaque fois que vous avez un Français supplémentaire qui travaille, il va payer des cotisations, son employeur aussi, il va payer des impôts. Donc l'objectif, ça reste d'arriver au plein emploi, parce que c'est des recettes supplémentaires aussi.
D'où ce tour de vis annoncé sur l'assurance chômage, pas pour s'en prendre aux chômeurs, justifie le Premier ministre, mais pour mieux les inciter à reprendre un emploi.
Une des pistes, c'est de réduire cette durée d'indemnisation de plusieurs mois. Ensuite, vous avez le temps qu'il faut avoir travaillé pour pouvoir bénéficier du chômage. Là aussi, on peut imaginer de dire qu'il faut travailler davantage.
Une nouvelle négociation va donc s'ouvrir, mais avec un ultimatum, aboutir cet été pour que la réforme puisse s'appliquer à l'automne.
Colère des syndicats dans la foulée annonce inacceptable, dit la CGT. L'assurance chômage ne peut pas être une variable d'ajustement pour la CFDT. Gabriel Attal qui évoquait également la laïcité à l'école hier soir sur TF1. Laïcité sans cesse mise à l'épreuve avec une forme d'entrisme islamiste. Voilà ce que dit le Premier ministre après l'affaire du lycée Ravel à Paris. La démission d'un proviseur qui était menacé de mort après avoir demandé à une élève d'enlever son voile. Une plainte sera déposée, une plainte de l'État contre l'élève qui l'accuse de violence. Un nouveau proviseur est en poste depuis lundi. Martin Bourdin et Alfred Orange sont retournés sur place dans le lycée pour RMC.
Des dizaines d'élèves s'agitent sur le trottoir devant les grilles du lycée. Peu en parlent, mais beaucoup, comme Deva, ont été surpris par la démission de leur proviseur.
C'est triste, je trouve. Un directeur, il essaye juste de faire appliquer le règlement de l'établissement, en fait, c'est-à-dire la laïcité, et il se retrouve à ne plus avoir de travail. On trouve pas ça normal, parce que nous, on se dit quoi ? On se dit déjà, s'ils arrivent pas à protéger ce qui représente l'éducation nationale, bah, nous, comment ils vont nous protéger ?
Mais d'autres élèves sont plus sévères. Dans la classe d'Oriane, par exemple, quand le changement de proviseur est évoqué,
ils ont commencé à applaudir, ils célébraient ça.
Car même si elle a été classée sans suite, ce que beaucoup retiennent, c'est la plainte déposée par la lycéenne contre son ancien proviseur.
On comprend le fait qu'il a pu demander à une élève d'enlever son voile, mais comment il a fait ? Peut-être avec violence.
Ces problèmes liés à la laïcité, les enseignants y sont régulièrement confrontés, explique une prof de musique de la cité scolaire, Maurice Ravel.
Ça prend des proportions qui ne devraient pas être, effectivement. Il y a une montée d'un problème du religieux qui revient alors que c'était terminé depuis longtemps. Ça inquiète.
Ça inquiète, ça agace aussi certains professeurs qui aimeraient retrouver de la tranquillité au sein de leur établissement pour que les élèves puissent travailler sereinement.
Et ne manquez pas ce matin le rendez-vous à ne pas manquer. Michaël Paty, la sœur de Samuel Paty, sera l'invité d'Apolline de Malherbe à partir de 8h30 sur RMC et BFM TV. Sa première interview depuis la mort de son frère à Conflans-Sainte-Honorine en région parisienne il y a 3 ans et demi. Pour l'heure sur RMC, il est 6h04. Le village du Auvernais dans les Alpes de Haute-Provence est totalement bouclé ce matin, 9 mois après la disparition du petit Émile, 2 ans et demi dans ce hameau reculé. Une mise en situation, sorte de reconstitution sera organisée à partir de ce matin. Julie Bro, vous êtes sur place pour RMC. 17 personnes seront présentes, 17 personnes qui étaient là le jour de la disparition.
Oui, parmi elles, la famille du petit Émile, mais aussi des voisins, des habitants ou encore des témoins visuels qui ont assuré avoir aperçu le petit garçon le jour de sa disparition. Le but, leur faire revivre avec précision cette journée du 8 juillet 2023. Sous l'œil attentif des enquêteurs, les 17 personnes convoquées vont retracer minute par minute leur emploi du temps. Un travail minutieux qui pourrait faire émerger des failles, des incohérences dans leurs témoignages ou bien au contraire, leur permettre de se remémorer un détail jusqu'ici oublié. Une sorte de reconstitution essentielle donc qui va se faire à huis clos. Les routes qui mènent au hameau du Auvernais sont barrées et surveillées par une centaine de gendarmes. Des gendarmes qui comptent sur cette opération pour peut-être percer le mystère de cette disparition alors qu'aucune piste n'a jusqu'ici pu être écartée.
Du nouveau cette nuit à Baltimore, aux États-Unis, les secours ont repêché les corps de 2 des 6 ouvriers portés disparus depuis l'effondrement de l'immense pont qui traverse la rivière locale. Enfin, le bout du tunnel, c'est cet été, avec 12 ans de retard, que l'EPR de Flamanville sera enfin raccordé à l'électricité. Mais alors jusqu'au bout, c'est compliqué avec un énième contretemps pour cette centrale dernière génération, Julien Coudreau.
Oui, dernière en date, avant-hier, le chargement du combustible du réacteur prévu pour la fin du mois est repoussé à mi-avril. Mais on n'est plus à 2 semaines près, soulignait à juste titre hier le ministre de l'Industrie, Roland Lescure. L'EPR de Flamanville devait être mis en service en 2012. Sa construction a débuté il y a 17 ans. Construction stoppée 1 an plus tard en raison de fissures dans le béton coulé pour bâtir les fondations. Début d'une très longue série de contretemps marquée par la mort de 2 ouvriers en 2011, le lancement d'un audit après l'accident nucléaire de Fukushima et d'innombrables déboires techniques. Qualité de l'acier de la cuve du réacteur, soudure défectueuse, pièces métalliques non conformes, un chantier maudit dont la facture a été multipliée par 4, coût total 13,2 milliards d'euros selon EDF qui doit encore obtenir le feu vert de l'autorité de sûreté nucléaire sur cette mise en service prévue cet été, sauf nouveau contretemps d'ici là.
Emmanuel Macron est au Brésil, où le président a appelé à bâtir un nouveau Mercosur, l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et les pays sud-américains que la France bloque depuis 2019. C'est une tragédie mondiale, nous dit l'ONU. Chaque jour dans le monde, écoutez bien, on jette à la poubelle l'équivalent d'1 milliard de repas. Ce gaspillage alimentaire pourrait d'ailleurs permettre de nourrir toute la population qui souffre de la faim sur Terre. La faute à 60%, la faute au ménage. C'est nous, en fait, qui jetons beaucoup trop d'aliments comestibles à la poubelle. La preuve, écoutée avec Lucas Laubert.
Au quotidien, Mona essaie de ne pas jeter. Mais pour cette mère de famille, difficile d'être raisonnable avec les grosses promotions.
Évidemment, on peut toujours faire mieux. Des fois, quand c'est pas cher, on a tendance à en acheter un peu trop. Et finalement, c'est gâché aussi parce qu'on l'utilise pas, surtout aux produits frais.
D'autres disent être de bons élèves en matière de gaspillage.
C'est pas difficile en fait de ne pas gaspiller.
Rafik prévoit ses repas pour la semaine, achète en moins grande quantité. Mais il l'avoue, lui aussi peut mieux faire.
Quand je jette, c'est soit que je l'ai oublié dans le frigo, et ça m'arrive parfois, soit c'est quelque chose qui ne peut pas se garder, mais c'est quand même assez rare.
Pour les produits laitiers, par exemple, presque 1 Français sur 5 déclare en jeter chaque mois. Pourtant, ils peuvent être consommés après la date de péremption. Les conseils de Jean-François Récaud, fondateur et directeur de l'association anti-gaspi Biocycle.
Ce que je recommande, c'est de se fier en fait à ses sens. L'aspect visuel, l'aspect olfactif, et vous pouvez même goûter en fait, une petite portion, et ça vous donne tout de suite une indication en fait si le produit est consommable ou pas.
Mais les ménages ne sont pas les seuls à trop jeter. La grande distribution, la restauration ou encore l'industrie agroalimentaire peuvent mieux faire.
Et puis la liste s'allonge. Après le nageur Florent Manaudou, c'est la lanceuse de disques Mélina Robert-Michon qui est à son tour candidate pour être porte-drapeau de la France cet été aux Jeux Olympiques.
Eh bah, il a de la gueule ce casting, non? Florent Manaudou, Mélina Robert-Michon. Il faut un homme, une femme, hein, c'est ça, hein?
Oui, c'est ça, il en faut deux.
Porte-drapeau, est-ce que ça lui va ce casting à notre ami Manu Lechypre qui vient de s'installer dans ce studio? Salut Manu.
Bonjour à tous.
On valide le casting? On valide.
Excellent casting, des vrais sports olympiques.
Oui, c'est vrai, la lanceuse de poids, le nageur. Absolument. C'est vrai que c'est très olympique comme casting aussi. À suivre donc, on attend le verdict définitif, mais la liste des candidats voilà, qui s'allonge. Et évidemment, on va suivre ça de très près, vous le savez, sur RMC, la radio des JO. C'était le journal de Quentin Vinet qu'on retrouve tout à l'heure à 7h en direct. Et puis tout de suite, on joue